Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Zajdé pour « Qui sont les enfants cachés ? Penser avec les grands témoins », un ouvrage collectif qu'elle a dirigé et qui est publié aux éditions Odile Jacob. Bonjour Nathalie Zajdé.
Bonjour Ève Cheftel.
Les auditeurs de cette émission vous connaissent bien, mais je vais tout de même rappeler que vous êtes maître de conférence en psychologie à l'Université Paris 8, responsable de recherche et clinicienne au centre Georges Devreux, que vous avez créé en France le premier dispositif de prise en charge psychologique des enfants cachés et descendants des survivants de la Shoah, et que vous êtes l'auteur de 3 ouvrages de référence sur le sujet, « Enfants de survivants » qui est paru en 1993, « Guérir de la Shoah » en 2005, et enfin « Les enfants cachés en France » en 2012, tous aux éditions Odile Jacob. Alors l'ouvrage pour lequel nous vous avons invité ici réunit les textes des interventions d'un colloque qui s'intitulait justement « Qui sont les enfants cachés ? Penser avec les grands témoins ?» qui s'est tenu le 1er juillet 2012 au Mémorial de la Shoah, en marge de l'exposition sur les enfants dans la Shoah. Et ce colloque réunissait pour la première fois des historiens, des psychologues, des sociologues, mais aussi des psychiatres et des écrivains qui avaient pour la plupart un lien intime, biographique avec le sujet, soit qu'ils étaient eux-mêmes des anciens enfants cachés ou des enfants d'enfants cachés, ou alors simplement ils travaillaient sur cette question ou avec ce public depuis très longtemps. Ma première question, Nathalie Zajdé, serait tout simplement reprendre le titre du livre « Qui sont les enfants cachés ? Comment vous les définiriez ?»
C'était pour essayer de construire à plusieurs voies et à partir de disciplines différentes une proposition. Alors je vais essayer de... Moi, je vais vous donner ma définition, on va dire, à partir du travail que je mène avec l'équipe du Centre Georges Devreux depuis plus de 20 ans. Des enfants cachés, c'est des enfants qui, pendant la Shoah, étaient destinés à être tués, assassinés, et qui, pour échapper à la mort, ont dû renoncer à leur identité, à être des enfants juifs, de leurs parents, à vivre au sein de leur famille, à taire leur identité, à l'oublier, parfois à la renier fortement, pour survivre. Et du coup, les enfants cachés sont des êtres qui sont des vraies énigmes, en tout cas pour nous, les psychologues. C'est quand on est petit, quand on apprend à être un être humain, un enfant d'abord, un adolescent, puis un adulte, un jeune adulte, puis un parent, etc. Comment ça se passe dans la tête de ces enfants qui, au moment où ils doivent apprendre à être eux-mêmes, c'est-à-dire à porter leur nom et à être les enfants de leur maison et de leur famille, hein, à ce moment-là, à ce moment même où ils commencent à construire, à devenir qui ils sont, eh bien, on leur dit non, attends, arrête, interromps ton apprentissage de toi-même et deviens radicalement un autre. Et cela de façon, obligatoire. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, alors tu vas mourir. C'est-à-dire, si tu continues à dire « Mais non, je m'appelle Sarah Rosenblum, mes parents sont des juifs polonais qui viennent de Lodz, qui ont émigré, etc. Et on a un petit appartement avec un atelier de couture dans le 18e ou 19e arrondissement. » Si tu continues à dire ça, et ma religion, c'est le judaïsme, alors bon, un petit enfant ne sait pas, mais et voilà, si tu continues à dire ça, tu vas mourir. Donc, tu ne t'appelles plus à partir d'aujourd'hui, et pour... 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le temps qu'aura duré la cache et la Shoah, au fond, eh bien, il faut que tu dises que tu t'appelles, que tu es autre, tu es quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, en 1942, parce que souvent, il y a beaucoup d'enfants juifs en France, en tout cas des enfants juifs de la région parisienne, ont été cachés avant la rafle. C'est comme ça, d'ailleurs, avant la rafle du 16 juillet 1942. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont été sauvés. Et donc les parents ont entendu dire que par des réseaux, par des amis, par des policiers qu'ils connaissaient, qu'il y avait quelque chose de grave qui se préparait pour les enfants et qu'il fallait, enfin pour tout le monde, et qu'il fallait mettre les enfants à l'abri. Et donc ces enfants se sont retrouvés donc mis à l'abri à la campagne. Et la campagne française de 1942, ce n'est pas la campagne française d'aujourd'hui, c'est une campagne avec une forte identité régionale, on parle en patois, on est chrétien, on est protestant ou catholique, même quand on est dans des réseaux communistes, enfin quand on est sauvé par des réseaux communistes. De toutes les façons, il faut aller à la messe, sinon ça paraît louche. Et ces enfants, donc, en fait, vont connaître une métamorphose d'identité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enfant caché ? C'est quelqu'un qui, dans son enfance, au moment où il devait apprendre à être lui-même, a été métamorphosé en un autre que lui.
Et ce faisant, en se reniant, en étant forcé à se renier, se fait le complice involontaire, finalement, de l'entreprise génocidaire, d'une certaine façon. C'est peut-être ça aussi qui est difficile à porter ensuite. Abandonnant l'identité juive.
Vous allez un petit peu vite parce que, enfin, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est ce que, par moment,
c'est ce paradoxe dont je parle, qu'on soulève
en consultation avec les anciens enfants cachés qui essaient de retrouver leur identité. C'est vrai que d'un point de vue logique, on va dire que survivre à la Shoah, c'est-à-dire à la volonté d'assassiner le peuple juif, c'est fait pour ces enfants à condition que, justement, ils ne soient plus juifs. Donc, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe et il y a ce que vous relevez, c'est-à-dire ça va dans le sens, au fond, d'un point de vue de la culture et de l'identité juive, elle est abolie pour ces enfants-là radicalement pendant toutes ces années. Et là où ça devient encore plus compliqué, j'ai envie de dire, c'est qu'au lendemain de la guerre, la plupart de ces enfants doivent redevenir juifs. Enfin, on va les chercher. Les orphelins sont pris en charge par des associations juives, l'OSE, les éclaireurs israélites de France, les institutions juives internationales, le Joint, qui viennent voir un peu où sont leurs enfants. Est-ce qu'il y a encore des enfants vivants et pour les retrouver et les ramener à leur identité première. Et ces enfants, se retrouvent une seconde fois en milieu étranger pour eux, parce qu'ils ont appris à être des petits-enfants berrichons, auvergnats, catholiques, chrétiens, quand ils sont petits. Je veux dire, la plupart d'entre eux sont devenus, évidemment, les enfants du cru. Et donc, il y a une double contrainte, un changement nouveau. Et dans un monde juif qui, de toutes les façons, n'est plus du tout le même, soit ils n'ont plus leurs parents du tout, soit ils ont leurs parents, mais leurs parents ne sont plus les mêmes que ceux d'avant le drame. Et puis la communauté juive est défaite, elle est anéantie, elle est psychologiquement, culturellement anéantie. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas retrouver quelque chose qu'ils n'ont pas eu, et ça fait partie des grandes questions qu'on se pose, nous les psychologues, quand on doit aider ces enfants, ces anciens enfants, qui présentent des souffrances psychiques. On se dit, mais est-ce que ces souffrances psychiques ne s'originent pas dans ces moments-là, où ils ont été contraints à survivre et à se dépasser? Et comment on peut-être, même des dizaines d'années après, les aider à finalement retrouver, réparer, récupérer ce qu'on leur avait ôté, ce qu'on leur avait volé, c'est-à-dire leur noyau, leur identité juive pleine et entière, pleine et heureuse, je veux dire.
Alors justement, vous l'abordez, ce terme-là de noyau juif, hein, vous expliquez dans votre contribution que la nécessité finalement de leur... redonner en quelque sorte cette identité. Pourquoi c'est aussi central, cette idée d'identité juive, de noyau juif? Quel rôle elle joue dans votre pratique, on pourrait dire?
C'est une question essentielle, la question que vous posez, parce qu'au fond, comment dire, je dois revenir un tout petit peu. Pour expliquer, on va rappeler le fait que les enfants survivants de la Shoah, les enfants cachés, sont des personnes dont on a très très peu parlé.
Oui, c'est important que vous nous disiez de quand date cette reconnaissance et même l'émergence de cette catégorie dans l'espace public.
On a évidemment pris connaissance au lendemain de la guerre des survivants des camps, et ça a été suffisamment terrible et impressionnant et abominable pour, euh, pour inciter les politiques, les psychiatres qui devaient s'occuper de ces gens-là, les médecins, on va dire, voilà, il s'est passé quelque chose d'abominable. Comment ces gens... qu'est-ce qui s'est passé pour eux, d'abord? Et puis, comment ils ont pu survivre? Et puis, qu'est-ce qu'ils sont devenus, une fois qu'on leur a fait subir de tels traumatismes? Et les enfants... cachés, bon, bah, eux, ils ont retrouvé l'existence d'enfants normaux, quoi. En tout cas, je parle des enfants cachés en France, à l'école, soit en foyer, soit ils retrouvaient à la maison. Enfin, et on ne leur a pas demandé, mais qu'est-ce que vous avez vécu? Ces questions qu'on se pose sur l'identité, c'est des nouvelles questions. Et pourquoi ce sont des nouvelles questions? Et pourquoi le noyau juif nous paraît aujourd'hui très important? C'est parce que depuis... bon, depuis le fameux discours, en tout cas en France, en 1995, le discours de Jacques Chirac reconnaissant l'importance, la responsabilité de l'État français, de la France, du pays, quoi, et non pas d'un régime politique spécifique, mais de l'État, des institutions françaises dans la déportation des Juifs de France, et donc de ce vécu d'enfant. Et la recherche et la réussite du travail, des travaux de Klarsfeld et de son épouse et de l'association des fils et filles de déportés juifs de France pour dire voilà, il s'est passé quelque chose pour ces enfants-là, pour nous les enfants cachés, pour nous les enfants orphelins et pour nous les enfants juifs pendant la guerre, on a subi des choses très particulières. Il faut reconnaître ce que nous avons traversé, il faut reconnaître notre statut d'orphelin à cause de la situation politique en France de l'époque. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait revivre, comment dire, ça a réveillé des souffrances qui avaient été enfouies, qui étaient là, mais qui étaient restées secrètes, qui, pour certains, étaient très enfouies au point que, bon, on va dire, ça se passait la nuit dans les cauchemars, mais le reste du temps, c'était, on n'y pensait pas. La reconnaissance officielle par l'État français... Les travaux des cinéastes comme Spielberg, la Fondation Spielberg. Le fait de dire on va rendre aux enfants, par exemple, aux ayants droit, l'argent qui était en déshérence, tous ces événements publics et politiques ont eu un effet, là aussi paradoxal.
La création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah aussi.
Et effectivement.
L'un des objectifs est justement de faire en sorte que la fin de vie de ces orphelins de la Shoah et des enfants cachés se passe dans les meilleures conditions.
Tout à fait, ça fait partie de toutes ces effets, enfin tout ce réveil de conscience
et ça postérieur au discours.
Oui. A eu un autre effet qui était que pour les enfants, leur état de leur vécu de victime juive. Pour ces anciens enfants cachés qui avaient par ailleurs eu, la plupart d'entre eux ont grandi, se sont développés, ont eu bon an, mal an, enfin, ont mené une vie, certains ont très bien réussi, d'autres ont eu des problèmes psy, mais bon, qu'on ne mettait pas en relation avec ça. La reconnaissance publique a eu un effet assez paradoxal qui était tout d'un coup de dire « mais nous avons aussi été victimes ». Alors, c'est là où nous, en ethnopsychiatrie, on se dit « ok, si on doit... reconnaître cela, et c'est fondamental, de dire voilà, des personnes ont été victimes, alors il faut pouvoir aussi définir de quoi elles ont été victimes, de quoi, comment, par qui, identifier l'agression, identifier l'agresseur, pour justement les aider et les sortir de cette position de victime. C'est-à-dire que la reconnaissance d'une spoliation physique et psychique, la reconnaissance d'une agression, ce n'est pas pour instituer l'individu, le sujet, dans un état de victime à vie, mais c'est au contraire un peu à la manière de la juridiction, enfin dans le milieu juridique, c'est-à-dire on reconnaît que tu es victime et tu vas demander réparation, et une fois que tu auras obtenu réparation, tu ne seras plus une victime. Alors, quelle est, pour obtenir la réparation, il faut identifier l'agression. Quelle est l'agression subie par les anciens enfants juifs cachés pendant la guerre? Eh bien, ils ont été agressés. On a tué leurs parents, on les a empêchés de vivre leur vie au sein de leur cocon familial naturel. On les a contraints à une métamorphose d'identité une première fois, puis une seconde fois. Pourquoi? Pour quel motif? Qu'est-ce qu'on visait en eux? Leur identité, leur noyau juif, le fait d'être juif. Alors nous, quand nous les reconnaissons comme des victimes de cela, nous devons, dans un mouvement thérapeutique, dans un mouvement de réparation, eh bien les aider à redevenir juifs, enfin à récupérer ce dont ils ont été spoliés, c'est-à-dire leur identité.
Serge Klarsfeld, qui a publié en 1983 Vichy Auschwitz, le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive, a établi, je voulais quand même le rappeler, qu'il y avait en 1942 environ 70 000 mineurs juifs de moins de 18 ans. 11 000 de ces enfants seront déportés et qu'il y a eu environ 60 000 enfants cachés survivants. Et que sur ces 60 000, 20 000 ont été orphelins d'un ou de leurs deux parents. Alors je voulais parler de Klarsfeld parce qu'il dit quelque chose d'intéressant dans sa contribution. Il dit que le fait d'appartenir à cette génération d'exception, comme ça qu'il qualifie cette génération dont il fait partie, lui a donné une responsabilité historique et morale. Alors je voulais vous demander, en quoi est-ce une génération d'exception? Et est-ce que c'est un sentiment partagé parmi les anciens enfants cachés d'avoir une responsabilité historique? Vous dressez une liste non exhaustive, on va dire, des enfants cachés dans votre livre. On découvre d'ailleurs qu'il y a Jacques Lang, Claude Berry, Serge Gainsbourg, Samy Frey, Barbara, Boris Cyrulnik, qui a écrit un texte aussi, André Glucksmann, René Friedman, Bernard Kouchner, Serge Klarsfeld, bien sûr, Régine, Sarah Kaufmann, Paul Naref, Jean Ferrat, Yvan Levaille, Philippe Bouvard, etc. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, génération d'exception?
Mais oui, c'est une génération d'exception de fait, statistiquement parlant, j'ai envie de dire, malheureusement. C'est-à-dire que 90% des enfants juifs pendant la Shoah en Europe ont disparu. C'est les premières victimes, puisque c'est les enfants c'est eux qui sont les plus vulnérables. Nous recevions la semaine dernière avec ma collègue Catherine Grandsart à la cellule de prise en charge des familles de survivants de la Shoah, des survivants et des familles de survivants de la Shoah au centre Georges Devreux, une famille le père de famille est un ancien enfant survivant du ghetto. Il a survécu avec ses deux parents et sa sœur. Et nous expliquons au cours des séances qu'on a avec lui et ses propres enfants qui sont nés en France dans les années 60 que, en fait, on a en face de nous un des rares miraculés de cette situation. C'est-à-dire que survivre dans le ghetto de Varsovie avec sa petite sœur, son père et sa mère, sortir du ghetto avant la destruction du ghetto et être encore vivant, les quatre sont sortis vivants de la Shoah. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que Klarsfeld a bien conscience qu'il sait très bien, pour l'avoir vécu lui-même, que les gendarmes, enfin lui c'était les Allemands, sont venus, puisqu'il était à Nice, sont venus les arrêter, que son père avait organisé la cache dans le placard, et donc Serge, sa sœur et sa maman étaient dans le placard, et ont entendu les Allemands arriver, et ils s'attendaient à prendre toute la famille, et ils ont pris le père, puisque les autres étaient... Donc il sait, Serge Klarsfeld, comme tous les enfants cachés, c'est une exception, c'est-à-dire il sait que son destin, ça devait être le destin logique, ça devait être d'être exterminé comme 90% des enfants d'Europe. En France, on a une situation exceptionnelle, inversée. Donc ils sont exceptionnels, c'est une génération d'exception à deux titres. Premièrement parce qu'ils auraient dû mourir, puisqu'on voulait les tuer. Et deuxièmement parce qu'ils ont survécu en France... de façon par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est plus de 90%, c'est 80...
60 000 sur 70 000.
Oui, c'est énorme, donc ils savent. Et puis, il y a une autre chose, alors là, c'est des questions fondamentales des enfants cachés, qui sont des questions que les enfants cachés gardent toute leur vie, toute leur existence. C'est pourquoi faire survivre? Enfin, comment ça se fait qu'on a survécu? Enfin, qu'est-ce que... Et dire que mon père ou ma mère, c'était des gens, des adultes. Les enfants sont vulnérables. Comment des enfants peuvent être plus forts que des adultes qui, eux, se sont fait arrêter? Comment des enfants peuvent résister à l'arrestation de la police, de la Gestapo? C'est le cas de Boris Cyrulnik. Ils ont une expérience personnelle de ce qui leur est arrivé, une fois qu'ils ont pris conscience. Mais ils prennent conscience très très tôt que la situation est une situation politique, qu'ils sont en face d'institutions, et qu'ils se disent, mais au fond, enfin, ils ont bien vu qu'ils étaient plus forts. Glucksmann le raconte très bien dans son livre aussi, qu'il s'est moqué de la police, qu'il s'est moqué des instituteurs, qu'il s'est moqué des médecins à l'hôpital, puisqu'il a menti, il mentait surtout pour survivre.
Et par rapport à leur place dans la société, leur rapport à la société?
Alors ensuite, Ce sont des enfants qui très tôt ont été délégitimisés socialement, c'est-à-dire il y a un texte de...
Vomi, vous dites même,
oui.
D'une certaine façon.
Ah ben, la société française qui, au début, les accueille très bien à l'école, enfin, c'est des petits gosses en plus en général, c'est des enfants d'émigrés juifs, donc il y a une espèce de tradition dont on doit bien travailler à l'école, donc très souvent, beaucoup aiment beaucoup l'école, bon, ça fait partie des traditions familiales, quoi. Et puis, du jour au lendemain, on les met au fond de la classe, il y en a qui racontent ça, très bien, ils se souviennent du jour où on a dit non, maintenant au fond, et puis maintenant dehors. Donc plus le droit d'aller à l'école, plus le droit d'aller au jardin public, plus le droit... Ils ont vécu une désocialisation radicale du jour au lendemain. Ils savaient très bien pourquoi. Mm-hmm. Parce qu'ils étaient juifs. Alors être juif, ils ne savaient pas ce que c'était forcément, mais ils savaient que c'était ça. Et donc ensuite, ils passent toute la guerre avec la plupart d'entre eux. Et ils le disent encore aujourd'hui, ils s'en souviennent, des frayeurs continues. C'est-à-dire, ce n'est pas une fois qu'ils évitent une fois d'être arrêtés ou ils sont une fois dans un placard. Mais c'est tout le temps. C'est régulier, c'est répété. C'est un traumatisme qui pénètre dans les personnes. C'est-à-dire, d'où les cauchemars qui continuent des dizaines d'années après. C'est-à-dire, ils ne sont toujours pas assurés qu'on ne va pas encore les chercher puisque ça a duré des années, des mois et des nuits. Une fois que la guerre se termine, on leur dit « Bon, bah, ça y est, c'est fini. » C'est comme si c'était « On arrête de jouer. » Enfin, on leur a pas dit « On arrête de jouer. » Mais c'est comme si « Bon, mais maintenant, tu peux revenir. » Ce sont des gens qui, qui ont été donc vomis, rejetés. Au bout de 3-4 ans, on leur dit « Non, mais finalement, c'était pas nous. Finalement, c'était pas nous, c'était pas l'école. » « Ah bon ? Il y en a qui sont revenus dans la même école. » Si, c'était les mêmes endroits. Donc, en fait... Je crois qu'ils ont fait semblant, ils se sont réadaptés en général très, très bien, mais ils ont toujours conservé au fond d'eux-mêmes deux choses très particulières. La première, c'est la légitimité, l'assurance de notre existence n'est jamais acquise. Donc chaque jour, il faut montrer au monde qu'on a bien eu raison d'être vivant et donc il faut qu'on se montre nécessaire. Alors on devient un journaliste, un cinéaste, un grand chercheur, un écrivain, un grand businessman. Enfin, il faut qu'on fasse quelque chose de notre vie, puisqu'on n'aurait pas dû être là et que la société nous a fait penser qu'on devait ne plus être là. Et la deuxième chose qui est toujours là, qui est restée encore aujourd'hui, qui est assez étonnante, c'est les parents, pour ceux dont les parents ont disparu. Les parents ont disparu du jour au lendemain. On a bien vu qu'il s'était passé des choses abominables. On l'a su grâce aux travaux des chercheurs, grâce à Klarsfeld, Mais on les attend encore. Parce qu'on n'a toujours pas compris pourquoi. Pourquoi cette horreur, cette abomination nous est arrivée.
C'est ce que dit très bien Boris Cyrulnik dans son texte. Il prend l'exemple de Pérec. Et il emprunte la notion de crypte à Pérec. Il dit Pérec est un mauvais élève jusqu'au jour où il décide d'écrire la vie de ses parents. Donc ses parents qui ont disparu. Alors là, à ce moment-là, il étudie, il devient un bon élève et il devient le grand écrivain que l'on sait finalement en racontant la vie de ses parents, en leur donnant une sépulture. Et il dit, Cyrulnik, je crois que les enfants cachés sont comme Georges Perec. Nous sommes les cryptes de nos parents restés sans sépulture. Nous les conservons en nous-mêmes. Nous sommes à la fois nous et eux. Nous ne vivons pas uniquement pour nous-mêmes.
Oui, Boris Cyrulnik, je trouve, définit très très bien la situation des enfants cachés. Et je dois dire, et c'est là où c'est assez troublant, et notre expérience de prise en charge des familles de survivants nous le montre encore chaque jour. Tout à l'heure, j'étais encore en consultation avec Catherine Gransard et une famille sur 3 générations. Ce qui est étonnant, c'est que ces questions de délégitimation, cette problématique de vivre et pour soi et pour ceux qui ne sont pas là, en se demandant qu'est-ce qu'ils auraient fait, qu'est-ce qu'ils voudraient, sous forme d'énigmes permanentes, hein, parce qu'en fait, c'est comme s'ils interrogeaient tout le temps leurs parents pour savoir, mais il y en a qui les cherchent dans la rue encore, quoi. Peut-être que je vais le croiser, peut-être que... Eh bien, ces questions-là se transmettent à la génération d'après. Et c'est là où aussi on se pose beaucoup de questions, nous, les psychologues, on se demande, mais comment c'est possible, puisque des jeunes qui sont nés dans les années 60 n'ont absolument pas connu ça, et même ceux qui naissent dans les années 80. Il s'est passé pour le monde juif une attaque terrible, une énigme abominable qui perdure au fond de génération en génération pour l'instant.
Et qui refait surface, l'identité en tout cas juive peut refaire surface.
Nous on constate que l'attaque était contre les vivants et contre les morts, puisque les morts juifs n'ont pas pu mourir en tant que morts juifs puisqu'ils ont été incinérés, et que il y a tout un travail de thérapeutique de réparation de ces morts, c'est-à-dire que en fait pour soigner les vivants, il faut aussi reprendre retrouver l'identité de chaque mort de chaque famille et de voir comment on peut lui redonner une place finalement de vivant dans cette famille, de personnage qui a été fondateur dans la famille et qui malheureusement est disparu dans la Shoah.
Merci Nathalie Zachdé. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur votre livre. Je voudrais juste mentionner un texte de Catherine Gransart, puisque vous l'avez évoqué, qui travaille avec vous au Centre Georges Devreux, qui s'appelle « Problématique actuelle de mineurs étrangers isolés accueillis en France », juste pour dire que cette expérience des enfants juifs cachés pendant la Shoah vous offre aussi des pistes pour comprendre ces jeunes de toute origine que vous accueillez et auxquels vous venez en aide. Je rappelle le titre du livre collectif que vous avez dirigé, « Qui sont les enfants cachés ? Pensez avec les grands témoins ». Merci. Je rappelle également que le mercredi 16 juillet à 18h aura lieu le rassemblement annuel des fils et filles des déportés juifs de France à l'emplacement du Veldiv, donc boulevard de Grenelle sous le métro aérien, Bir Hakeim. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.